Chers frères et sœurs, vous l'avez noté, lorsque nous prenons les textes de l'année A, ces textes qui sont prévus pour accompagner les catéchumènes, eh bien nous avons une grande catéchèse sur le baptême qui va se déployer. La dernière fois, vous vous souvenez, c'était la Samaritaine, pour ceux en tout cas qui étaient là. C'est-à-dire que le baptême, c'est comme le don de cette eau vive que la Samaritaine désire sans le savoir encore. C'est-à-dire la grâce de Dieu et que Jésus veut tellement nous donner. La semaine prochaine, ce sera la résurrection de Lazare. C'est-à-dire que le baptême est une résurrection de notre propre âme après être morte par le fait du péché. Et aujourd'hui, eh bien, le baptême est évoqué comme le recouvrement de la vue. On disait autrefois une illumination. Alors, on a un peu oublié cet aspect-là, puisque c'est peut-être pas très heureux, mais avant on appelait les baptisés les illuminés. Alors, c'est pas des illuminati, parce qu'on en a beaucoup parlé. Les photismatoi, c'était ceux, justement, qui avaient reçu cette nouvelle vision du monde de Dieu en toute chose. Et le fait de pouvoir recevoir du cierge pascal le cierge qui va être remis ensuite aux baptisés en est le signe le plus évident dans la liturgie pascale. Et aujourd'hui donc, qu'est-ce que va faire Jésus ? Il va guérir un aveugle, mais vous l'avez noté, un aveugle de naissance. De naissance. C'est-à-dire que sur le plan symbolique, nous naissons aveugles. Il me semble que nous oublions trop une des conséquences du péché originel. Alors, cette conséquence très évidente, c'est la mort. Nous sommes soumis à la mortalité, à la souffrance. Nous ne rencontrons que trop souvent cette conséquence qui est le fait que nous n'avons pas la maîtrise de nos passions, ce qu'on appelle en théologie les concupiscences déréglées. Mais on oublie cet aspect, cette conséquence du péché, qui est l'ignorance. Adam, avant la chute, était dans la familiarité avec Dieu. Il entendait son pas dans le jardin. Il parlait avec lui comme un ami parle avec son ami. Après la chute, Dieu cesse d'être évident. L'œil de l'homme s'est comme enténébré. Dieu est devenu obscur. Plus encore, il est devenu menaçant. Et cet aveuglement ne nous empêche pas seulement d'avoir une juste vision de Dieu, mais aussi du monde. On le voit bien, ouvrons notre poste de télévision, c'est une vision de l'homme sans Dieu qui ne peut que désespérer. La multitude des conflits, à quoi sert le monde ? À quoi bon ? Si nous n'avons pas cette autre vision ? Quand nous portons les regards sur l'homme, c'est exactement la même chose. De quoi sert l'homme sinon dérégler le monde, y apporter son désordre ? Et du coup, militons pour l'extinction de l'espèce humaine. Certains ne se privent pas de le faire. Bref, nous avons perdu la contemplation, c'est-à-dire la vision. Qu'est-ce que c'est que cette contemplation ? C'est voir Dieu comme le Christ lui-même le voit, et c'est voir le monde comme Dieu lui-même le voit. C'est toujours ces deux aspects. Quel drame ! Quand nous n'avons pas cela, c'est comme si nous regardions l'envers d'une tapisserie. C'est laid, c'est désordonné. Quand nous la retournons, nous voyons toute chose dans sa cohérence et sa beauté. Voilà, donc cet aveuglement, il faut pouvoir le dépasser, mais nous en sommes complètement incapables. Les philosophes ont bien essayé de proposer des bribes de vérité, mais toujours ils échouent devant le sens du malheur, de la souffrance. Alors, le Seigneur va nous faire ce don, justement ce don de la contemplation. Saint Paul va parler de métanoïa. Qu'est-ce que c'est ? C'est littéralement le changement de notre esprit, une nouvelle mentalité qui va induire aussi un nouveau comportement. Vous qui étiez ténèbres, vous êtes devenus lumière. Recevoir la lumière de Dieu, ça nous change complètement, même dans notre manière d'agir. Et Dieu peut donner cette contemplation le plus souvent, par la grâce du baptême, peu à peu. Les choses vont s'éclairer, on va comprendre telle ou telle vérité de foi, peu à peu, même s'il y a des choses qui résistent un petit peu. Et parfois, il la donne d'un seul coup, d'un seul bloc. Il a mis de la boue sur mes yeux. Je me suis lavé, maintenant j'y vois. Il y a un avant, il y a un après. Cela m'a fait penser à une conversion célèbre, celle d'André Frossard, cet académicien qui est mort il y a quelques années. Un éclair soudain a déchiré l'obscurité de sa nuit. Je lis le récit de sa conversion. En entrant à 5h10 dans une chapelle du quartier latin de la rue d'Ulm pour rencontrer un ami, j'en suis sorti 5 minutes plus tard, mais en compagnie d'une amitié qui n'était pas de ce monde. J'étais rentré sceptique et athée, indifférent. J'en suis sorti croyant. Debout devant la porte, je cherchais de mes yeux mon ami. Mes yeux allaient de la lumière aux ténèbres, des fidèles aux religieuses. Et puis, mes yeux se sont arrêtés sur la deuxième bougie qui était là à gauche de la croix. Et voilà que tout à coup, se déchaîne une série de prodiges d'une violence inouïe. D'abord, je me suis senti souffler ces mots « vie spirituelle ». L'esprit a une vie. Et puis une grande lumière, l'irruption d'un autre monde d'une splendeur et d'une richesse extraordinaire, l'évidence de Dieu et toute sa douceur. Oui, chers frères et sœurs, il s'agit d'une rencontre de l'ordre de l'évidence, du fait incontestable. Comme cet aveugle qui ne trouve pas d'autre chose à dire aux pharisiens qui le tourmentent, la seule chose que je sais, j'y voyais pas, maintenant j'y vois. Et Frossard, qui répondait avec malice à ceux qui le tarabustaient sur le réalisme de cette expérience, disait ces mots « J'ai rencontré Dieu comme on rencontre un platane. C'est un fait, point final. Que puis-je faire si le catholicisme est vrai? Si cette vérité est le Christ qui veut être rencontré? C'est peut-être nous qui avons perdu la passion de convaincre, de témoigner, de convertir. » Alors ne nous y trompons pas non plus. Frossard a évoqué ce mot d'évidence. Il y a quelque chose à faire de notre part. Vous l'avez vu, il est très beau que dans l'Évangile, l'aveugle doit faire quelque chose. Ses yeux sont tendus debout, il doit aller se laver à la fontaine. Il doit faire sa part. Et quelle est sa part? C'est la foi quand on se convertit. Et j'aimerais creuser un tout petit peu cette idée de foi. C'est ce qui va profondément humaniser notre découverte de la vérité. Quand je me convertis à la foi chrétienne, ce n'est pas un système de valeurs, comme on dit aujourd'hui. Ce n'est pas un système de vérité, comme j'entrerai dans la philosophie d'Aristote, de Schopenhauer ou que sais-je. C'est vrai qu'il y a dans notre foi un système de vérité parfaitement cohérente que nous découvrons pas à pas avec ceux qui suivent la catéchèse, justement qui les ordonne, qui en montre la cohérence. Mais ce n'est pas seulement cela. C'est l'assentiment à une personne. Qu'est-ce que la foi, disait Jean-Paul II? C'est une vérité à croire et une personne à qui faire confiance. La vérité, c'est quelqu'un, c'est Jésus-Christ, disait Frossard. Voilà, l'aveugle voit, mais en même temps va faire cet acte de foi. Jésus vint trouver l'homme et lui dit « Crois-tu au Fils de l'homme ? Qui est-il, Seigneur, que je croie en lui ?» c'est lui qui te parle. » Alors l'aveugle dit, « Je crois, Seigneur, » et il se prosterna. Voilà, la foi n'est donc pas simplement une pure passivité, celle de reconnaître une évidence, elle est toujours une activité profonde, celle qui engage notre cœur, plus encore celle qui engage notre volonté. C'est pas toujours facile de croire. La petite Thérèse était entourée de ténèbres dans la maladie. L'impression d'être à jamais séparée de Dieu avec ce mur qui se dressait entre Dieu et elle. Elle disait « Je crois parce que je veux croire ». Et elle a maintenu ferme cette décision. Ce choix de croire va s'enraciner peut-être dans deux choses. La première des choses, c'est l'étude, la lecture de la Bible. La foi naît de la prédication, dit saint Paul. Comment puis-je avoir la foi si je n'entends pas la prédication de cette parole ? Rien ne la fait naître en moi. Très vite, elle s'anémie. Donc, à quel point sommes-nous de cette lecture intelligente, persévérante, studieuse de la Bible ? Combien de fois les évangiles, nous les lisons en disant « Mais ça, je l'ai lu 10 000 fois, qu'est-ce que ça va m'apporter ?» Creusons, il y a toujours une nouveauté, la vérité ne se répète jamais. Premier point, donc, cette étude, c'est tellement important, nous péchons, nous les catholiques, par manque d'étude, par manque d'intelligence de notre foi. Et puis deuxième point, bien sûr, la prière, l'intimité de la prière, où justement Jésus cesse d'être une abstraction, une vérité un peu lointaine, il devient une personne, il devient un ami. Et alors je comprends qui est Dieu. Juste pour dire, eh bien, le fait de voir ainsi le Christ va nous attacher à lui. Si nous ne faisons pas cette expérience de cette quasi-vision, nous risquons d'abandonner. Je me permets juste de citer cette petite histoire qu'aimait bien raconter notre évêque en Argentine. Je ne sais pas s'il y avait beaucoup de chasse à cour là-bas, mais pour ceux qui sont chasseurs à cour, il disait ceci. Qu'est-ce qui fait que, dans une meute, certains chiens vont aller jusqu'au bout de leur chasse, jusqu'au bout pour poursuivre le gibier, et que d'autres vont abandonner? Ce ne sont pas forcément les plus vigoureux, ce ne sont pas forcément les plus jeunes des chiens, mais ce sont ceux qui, au départ, ont vu le cerf, le chevreuil, et du coup, vont avoir la conviction que leur quête n'est pas vaine. Eh bien, c'est exactement la même chose, pardon pour ceux que peut-être cette comparaison peut choquer, mais vous voyez, c'est exactement la même chose. Quand nous avons vu le Christ, nous ne voulons plus le lâcher. La petite Bernadette disait, mais avoir vu la Sainte Vierge, on ne peut plus être pareil après. On est comme attiré, on est comme en parfaite adhérence avec le ciel. Voilà, une dernière chose, parce que l'Évangile le dit, quand on se convertit, quand on voit, quand on décide d'avoir la foi, on va avoir des ennuis. À peine l'aveugle a-t-il recouvré la vue que tout le monde lui tombe dessus et que lui doit comme s'isoler d'un peuple qui le stigmatise pour confesser son Seigneur. Il faut savoir parfois que ce ne sera pas évident justement de maintenir notre acte de foi. Mais plus nous sommes fidèles, y compris dans les persécutions, le petit sourire narquois, alors t'es une fanatique. Tu vas à la messe le dimanche, tu soumets ta vie aux vérités de l'Évangile. Qu'est-ce qui fait ça aujourd'hui? Tu crois pas que t'en fais un peu trop? Eh bien, plus nous sommes fidèles dans ces moments-là, plus se creuse notre amitié avec le Christ. Plus il pourra dire « Je ne rougirai pas de toi devant mon Père qui est aux cieux ». Alors puissions-nous les uns et les autres nous aider sur ce chemin. Nous appuyer aussi sur celles qui fut bien heureuse d'avoir cru, qui a maintenu cette foi vive jusqu'au bout, notre Mère du ciel.